Bonjour, chers auditrices et auditeurs, ici Maxime Gauthier, journaliste IGL. Aujourd'hui, le 11 novembre est une journée soulignée par plusieurs pays dans le monde. Le 11e jour du 11e mois, à 11h, une signature historique appelée l'accord d'armistice est apposée par les Alliés en 1918, officialisant la défaite des Allemands et mettant ainsi fin à la Première Guerre mondiale. Monsieur Maurice Babineau, celui qui est considéré par sa communauté comme étant l'historien de Kedgwick, nous livre un témoignage inédit en lien avec des événements qui se sont déroulés dans le Restigouche-Ouest durant la Première Guerre mondiale. Maurice Babineau raconte.
Alors, en 1914, nos jeunes qui se sont enrôlés dans l'armée, c'était surtout pour défendre leur pays. Il y en a d'autres, par conséquent, c'était pour voir du pays, parce qu'ils n'avaient jamais sorti de Kedgwick. Alors, en allant dans l'armée, ils allaient voir beaucoup de choses que les soldats leur disaient. Cependant, les parents, les autres, ils ne voyaient pas ça de la même œil. Parce que les parents, ce qui arrive à ce moment-là, ils cultivaient. Alors, ils parlent de leurs grands garçons qui s'en allaient à la guerre. T'es pas intéressé pendant tout, mais les garçons, ils aimaient y aller pour l'expérience. Puis les officiers de l'armée, ben, ils savaient comment faire pour enrôler les jeunes. Ils leur disaient comment ça allait être beau, ça allait être le fun. Puis tout ce temps-là, quand ils décidaient d'embarquer, ben, les soldats venaient chercher. Ils les embarquaient dans le train, puis ils les envoyaient, je crois, à Stafferton ou dans ces endroits-là, pour enseigner l'armée. Mais lorsqu'est arrivé en 1917, la fameuse conscription, ben là, les jeunes, ils voulaient plus aller à la guerre. Puis qu'il avait eu l'expérience de ceux qui étaient allés. C'était pas si fun que ça. Ça les intéressait pas vraiment tout. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est se cacher dans la forêt. Puis les parents, mais comme de raison, c'est leurs enfants. Fait qu'ils allaient les nourrir à la cachette pour qu'ils meurent de faim. Mais il y avait des gens, comme on dit malhonnêtes, les autres, ce qu'ils cherchaient, tout ce qui était, les jeunes s'informaient. Puis après qu'ils savaient, ben, ils allaient voir les soldats. Puis les soldats leur donnaient temps par tête pour attraper les jeunes. Alors, ils allaient, ils savaient ce qui était caché. Fait qu'ils les pognaient, puis ils les emportaient chaînés aux mains et aux pieds, attachés à l'arrière d'un cheval jusqu'à la station pour embarquer sur le train. Tu sais, quand tu t'assis, tu penses à ça, là, ça n'avait pas de grand bon sens, mais c'était comme ça que c'était fait, tu sais. Puis un ancien soldat, il me racontait aussi qu'il s'avait caché dans le boule. Puis pendant 2 ans de camp, tu pensais 2 ans de temps, il dit que les soldats, ils ont venu près le poignet, là, c'était quasiment, il était fait, mais il n'y a pas été poigné. Il se cachait le long de la rivière Restigouche. Puis aujourd'hui, je suis dans la rivière Restigouche, il y a un endroit qu'on appelle ça, juste pour. Ben justement, il était caché là. C'était un monsieur Paquet. Lui, il s'est caché pendant 2 ans de temps. Même que la guerre était finie, puis il n'osa pas sortir. Il avait peur. Mais il a quand même vécu là. Il faut le faire. Rester 2 ans dans le bois. Puis lui, il n'y avait pas de parents qui le nourrissaient, là. Il s'est nourri de quoi ce qu'il y avait dans le bois. Pour dire que ces gens-là étaient débrouillards terriblement, tu sais. Puis finalement, à travers de tout ça, là, c'est que les plus vieux nous racontaient que des fois, ils empoignaient jusqu'à 8 à 10 hommes. C'est pas des faces, des garçons, là. Ils les attachaient aux mains pour aux pieds. Ils allaient avec un cheval jusqu'à la station pour les embarquer, pour les envoyer. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on verrait ça bien qui tuerait du monde. Mais à l'époque, c'était comme ça. Mais il faut penser qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Pratiquement pas de radio. Alors les gens, ils croyaient ce que les gens disaient. Alors si un monsieur arrivait chez vous, il disait, « Ouais, ben ton garçon, il est pris dans le bois, là. C'est quasiment pas humain, ça. Il serait bien mieux d'aller à l'armée, puis tati, puis parce que les soldats, ils encourageaient les gens à dire que l'armée, c'était la solution idéale pour l'avenir, pour les jeunes. T'sais. Alors, ces gens-là allaient s'informer d'un puis de l'autre, puis quand ils savaient, comme je te disais tantôt, où ce que les jeunes étaient cachés, ben là, ils vendaient. L'armée leur donnait temps par tête. C'est pas imaginable de nos jours de penser à ça. Mais c'est comme ça que c'était. Puis malheureusement, pour nous, là, les gens qui sont allés à la guerre qu'on a connus, moi, j'en ai connu des messieurs, là, se sont fait couper les doigts à la guerre. Pour parler, pour dire, puis ils savaient avoir rien, ils pouvaient pas rien dire. Un de mes voisins, il était caché 4 jours autour d'un pont. La guerre était finie, puis il savait pas. Mais les camions passaient, puis à un moment donné, il a dit, coudonc, on va se faire tirer, mais on va sortir. Puis il a sorti, puis la guerre était finie, c'était 4 jours. Tu sais, il y en a qui ont vécu des affaires atroces, t'sais. Mais ces gens-là, ils n'en parlaient pas. Moi, j'étais chanceux énormément en tant que paroissien. J'avais une barbershop, puis ces vieux bonhommes-là, ils venaient se faire couper les cheveux. Puis quand ils prenaient un petit coup, les soldats, ils parlaient. Mais à jeun, t'as jamais pu leur faire dire rien. Moi, j'ai vécu un monsieur Doucet. Il a fait 28 traversées en avion. Hey, as-tu pensé, là? Il était dans la coque, en tour, là, avec une mitraillette. Lui, il dit que c'était en cause qu'il était, il était terriblement bon quand il allait, qu'il a été sauvé. Mais quand il en parlait, quand il était chaud, quand il était à jeun, il ne pouvait pas dire un mot. Il broyait. Il disait que j'ai tué du monde, puis ainsi de suite. Tu sais, les gens, ils ne réalisent pas ce que ces gens-là ont fait, là. Puis qu'est-ce que ces gens-là ont vécu. Puis ça, les gens, ils disent aujourd'hui, « Ah, il y a des soldats qui font des dépressions après la guerre, puis ils ont été inquiétés, puis un qui était là, puis encore, puis ils sont malades. » C'est vrai qu'ils sont malades. Parce que ce qu'ils ont vécu, personne de nous autres ne pourra jamais le vivre. Alors, le 11 novembre, cher ami, disparu des soldats, nous vous souhaitons bonne vie.
La Première Guerre mondiale a fait perdre la vie à plus de 20 millions de personnes dans le monde et presque autant de militaires que de civils. Par cette guerre, au Canada, on compte plus de 66 000 décès en plus d'avoir fait 172 000 blessés. Un ancien militaire originaire de Kedgwick nous a offert un entretien plus tôt cette semaine. Écoutons le témoignage de M. Cédric Léonard, qui met d'abord la lumière sur ce qui a provoqué son désir de s'enrôler dans les forces armées canadiennes.
Si qu'il y a bien une date que tout le monde se rappelle, c'est le 11 septembre 2001. Ce matin-là, je m'avais fait clairer de l'école, puis j'attendais que mon père vienne me chercher à l'école. J'étais dans le bureau, dans mon petit bureau, à côté du salon des profs, en attendant que mon père vienne me chercher. Puis là, je regardais live la télé, puis la télé était allumée, mais je voyais de la fumée sortir du World Trade Center. Je savais même pas c'était quoi le World Trade Center, je savais que c'était New York, là, mais... Puis là, je me disais, il y a un feu dans une tour. Puis à un moment donné, j'ai vu live la deuxième avion se faire frapper la deuxième tour. Fait que là, j'ai resté figé. Puis là, il n'y avait pas de son sur la télévision, mais je comprenais. Là, j'ai dit, là, il y a une attaque aux États-Unis. Là, ça n'avait pas arrivé depuis Pearl Harbor, là, tu sais, avant la deuxième guerre. Puis je me rappelle encore comment j'ai venu avec de la rage en dedans. Là. Puis j'étais un élève assez... J'étais tanné à l'école et tout ça, puis je sais pas ce que ma vie s'en allait, mais je sais qu'elle s'en allait pas dans la direction qu'elle est là tout de suite. Puis je me rappelle quand je suis arrivé chez nous, mon père m'expliquait qu'est-ce qui avait arrivé, mais il m'a même pas demandé comment ça, que lui, dans sa tête, il disait « Hey, ça va pas bien », puis tu sais, il m'expliquait c'était qui Ben Laden, toutes ces affaires-là, puis j'écoutais la télévision, je l'écoutais. La même année, je me suis dit « Je sais pas quand, je sais pas où, mais je vais venger ce monde-là ». Quand j'ai eu l'âge d'entrer dans la réserve, je suis rentré dans la réserve en 2004. J'ai fait mon serment d'allégeance, j'avais 15 ans. Je suis d'un plus jeune qui l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est 16 ans. Mais le cours a commencé deux semaines après, puis ma fête était entre-temps. Fait qu'ils ont fait une dérogation, puis ils ont réussi à me faire passer pour rentrer. Puis ça a pris 9 ans. Parce que le 19 avril 2009, je m'étais allé en Afghanistan pour en faire ce que je voulais faire depuis le 11 septembre 2001.
Monsieur Cédric Léonard a donc fait partie des Forces armées canadiennes de 2004 à 2012 et a combattu en Afghanistan entre 2009 et 2011. On écoute à nouveau ses propos.
C'est niaiseux, je vais dire, j'ai déjà dit à ma blonde, on dirait l'Afghanistan, ça a venu comme ma maîtresse. T'sais, c'est comme, j'étais bien là-bas. Le sentiment d'être vraiment vivant puis faire de quoi, qu'il y a vraiment une différence. J'étais chenou, tu sais, j'étais même pas revenu à ma première mission, puis j'avais annoncé à ma famille, l'année prochaine, je reviens. T'sais, c'est des longues missions. La première fois, j'étais allé 7, puis après ça, j'étais allé 9 mois. C'est des longues missions, mais j'aimais ça là-bas. Je me sentais moi-même, comme un poisson dans l'eau. On prend souvent exemple que l'armée, c'est une machine qui est terriblement bien huilée, puis tout ça. Chaque personne qui est à un poste, en général, c'est au poste qu'il devrait être. J'ai déjà été déçu du commandement. Il y a des fois qu'il y a eu des décisions, que j'ai des chums qui sont morts à cause des mauvaises décisions. Ça, faut vivre avec. Puis aujourd'hui, ces personnes-là, ils pensent à ces gars-là à tous les jours. Là. T'sais, j'ai des exemples dans la tête qu'il y a des gars qui ont fait des jobs qu'il fallait pas qu'ils fassent, fallait qu'ils attendent. Puis j'ai des chums qui sont morts à cause qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Mais je le sais qu'à tous les jours, la personne qui a pris cette décision pense à eux autres. Puis c'est des décisions qu'on prend sur le feu de l'ennemi, c'est des décisions qu'on prend vite. Puis c'est ça, c'est des accidents qui arrivent, malheureusement, mais ça fait partie de la game. Mais j'avais une bonne vision de l'armée, puis je l'ai encore. C'est une expérience que quand tu es un jeune homme dans début vingtaine, c'est une expérience qui change ta vie.
Monsieur Léonard nous raconte maintenant une expérience de guerre parmi toutes celles vécues en sol afghan sur plus de 18 mois de mission.
Il y a une date précise que je me rappelle, c'est le 15 août 2009. Mes chums, on était sur une opération, puis on marchait sur le long d'un muret, puis moi j'étais en avant. Puis il y avait un muret près de 4 pieds, puis un muret d'à peu près 8 pieds. Quand j'arrivais en avant du muret de 8 pieds, il y avait un trou en triangle creusé, frais. Quand j'ai vu ça, je me suis reculé la tête. Dans ma tête, j'ai vu comme une mire de fusil. Mais en reculant ma tête, là, les talibans commençaient à nous engager avec une .50. Puis il y avait un arbre avec des fruits, les branches tombaient à terre. Puis là, moi, j'avais peur que mes chums en arrière, qui n'avaient pas beaucoup de protection, se fassent pogner par la mitrailleuse. Fait qu'aussitôt que les talibans commençaient à arrêter de tirer, je me suis mis la tête dans le trou et j'ai commencé à engager. Mes chums, là, ce qui est arrivé, la drill n'a pas été faite comme du monde. Mes chums se sont sauvés. Ils ont tous décollé la course en arrière de moi, mais ils pensaient qu'on allait s'attendre. Mais finalement, ils sont arrivés dans un petit point, peut-être bien à 150 mètres de ma position. Puis moi, je m'ai viré à la tête, puis j'étais tout seul. Puis là, je tirais, j'ai dit là, je vais manquer de balles. Puis là, lui, il sait que je suis là. Puis j'avais juste 220 balles sous mon gun. Puis j'ai dit, ce muret-là, il t'offre pas avec ce calibre-là. Puis quand mes chums sont arrivés, c'est drôle parce que c'est tout filmé. Mes chums sont arrivés, puis mon chum coucou a dit à Carl, il dit Carl, il dit où c'est? Puis mon sergent était plus là pantoute. Là. T'sais, ça venait de le choquer parce qu'il était. On venait de se faire engager solide, puis son cerveau, il a shut off. Là, t'sais. Fait que mes deux chums ont venu, ils ont décollé à la course, ils ont commencé à tirer des grenades avec un grenade launcher sur de leur gun, un M203, ils ont commencé à tirer des grenades sa position. Puis moi, quand j'y vais arriver puis tirer, j'étais content. Fait que là, on a fait, il appelle ça un peelback, on a commencé à se désengager. Il y en a un qui tire, les deux autres courent, on se met à genoux. Lui qui tirait, il tire plus, il court en arrière, puis on a réussi à se désengager. Puis quand j'étais arrivé, mon chum qui filmait, lui, il me filmait de loin. Puis j'ai dit à mes chums sur le vidéo, j'ai dit, tu sais, pendant que mes chums brossent au Nouveau-Brunswick pour le 15 août, parce qu'avec le décalage horaire, c'était comme 1h, 2h du matin, là, tu sais, moi, j'ai dit, moi, j'étais en plein party ici, là, tu sais. Donc, c'est drôle pareil, parce que à tous les 15 août, là, vers minuit, 1h, on est sur le party, j'ai tout le temps de penser de cette histoire-là.
Maxime Gauthier, journaliste IGL, au FM 90 au 17.